Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'est un grand classique des campagnes électorales françaises depuis toujours et notamment depuis une vingtaine d'années. Le thème de la sécurité est en train de prendre une place prépondérante avant les élections régionales du mois de juin prochain et sans doute aussi de la présidentielle de l'an prochain. Ce thème de la sécurité est placé en tête des préoccupations des personnes interrogées dans les enquêtes d'opinion au point d'en faire un peu oublier le reste qui est pourtant lourd. Pourquoi le thème de la sécurité cannibalise les campagnes électorales? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour en parler, trois invités sont en direct avec nous aujourd'hui. Dans ce studio, nous sommes avec Frédéric Michaud. Bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes directeur général adjoint de l'Institut de sondage Opinionway. Nous sommes aussi avec Jacques de Maillard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, directeur du CESDIP, c'est le Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Et toujours au téléphone, il y a Mariette Darigrand. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sémiologue, spécialiste de l'analyse du discours médiatique et politique, chargé de cours à l'Université Paris 13 et auteur du blog L'Observatoire des mots. Frédéric Michaud, Opinionway a effectué récemment une étude sur les thèmes qui préoccupent les Français. La sécurité arrive donc en tête? Est-ce qu'elle arrive vraiment en tête? Est-ce que ce thème devance les autres de manière large? Et est-ce que c'est une constante ces derniers mois?
Alors c'est un thème qui est effectivement en tête et parmi les thèmes qui compteront le plus au moment de voter lors des élections régionales. C'est 47% des Français, c'est le premier thème, c'est un thème qui devance d'autres thèmes qui habituellement sont en tête des grands domaines qui intéressent les Français, comme le développement économique, comme le cadre de vie, comme la santé publique, et l'écart se creuse avec ces autres thèmes depuis le début de l'année. Ça, c'est une situation qui est assez inédite. Habituellement, dans les campagnes électorales, c'est toujours la question du développement économique, du pouvoir d'achat, de la lutte contre le chômage qui polarise l'attention des électeurs. Là, pour la première fois aussi loin du scrutin, c'est la question de la sécurité qui concentre l'intérêt des Français.
Même devant la pandémie, la gestion de la pandémie.
Voilà, c'est ça qui est très surprenant. La crise sanitaire aurait pu soulever l'attention des Français pour la santé. On sait que c'est un domaine de préoccupation quotidien. Même chose pour la crise économique qui touche quand même de plein fouet toute une série de nos compatriotes. On a aussi la question environnementale qui est la toile de fond des préoccupations des Français depuis quelques années. Et bien pour autant, c'est vraiment la question de la sécurité qui l'emporte sur ces trois autres dimensions qui sont pas neutres, hein, qui sont importantes pour les Français. Mais on a vraiment ce décalage. La sécurité, c'est la première des priorités.
Jacques de Maillard, les résultats de ces études, est-ce qu'ils vous surprennent ou pas vraiment, étant donné, il faut quand même le dire, le caractère un petit peu anxiogène de ce qu'on vit en France depuis des mois, voire quelques années?
Oui, dans ces sondages, on a aussi un effet, d'une part, des événements récents autour de la crise sanitaire, et sans doute que dans la tête des sondés, ça joue dans la question de façon un peu implicite sur la sécurité, et qui aussi, cette crise sanitaire, relègue peut-être les sujets économiques et environnementaux. Donc il y a sans doute un effet de contexte qui est peut-être alimenté par des faits divers récents qui focalisent l'attention médiatique et du coup qui ont un effet de cadrage sur la façon dont les gens appréhendent ces questions. Alors, deux commentaires pour compléter. Le premier, c'est que c'est assez intéressant parce que c'est un décalage très important entre la préoccupation des Français et les capacités d'action des régions. Les régions ont des moyens d'agir sur les questions de sécurité qui sont très indirects. C'est sur les transports, d'une part, dans les établissements scolaires, lycées, d'autre part, mais c'est pas du tout, vraiment pas du tout, les compétences centrales des régions. Et le deuxième point, c'est que il y a quand même une variation dans les campagnes. C'est que la sécurité, que l'on prenne les régionales ou qu'on prenne d'autres élections, je pense notamment aux élections présidentielles, ça a été un sujet central lors des élections présidentielles de 2002, mais ça ne l'a pas été, par exemple, lors des élections présidentielles de 2017. Ça a été l'un des thèmes, mais pas du tout le thème central. Donc on observe quand même des variations, et de ce point de vue-là, ce sera sans doute l'un des sujets importants des élections de 2017, mais il est encore vraiment trop tôt pour dire que ce sera le sujet central de 2017.
Mariette Darrigrand.
2022, pardon.
2022, oui, pardon, c'est vrai, c'est l'année prochaine, c'est même dans moins d'un an. Mariette Darrigrand, ce thème de la sécurité sous différentes formes, il est très présent dans les discours politiques et médiatiques que vous observez ?
Oui, bah bien sûr. Alors, il est structurellement là, évidemment, surtout au moment des présidentielles, parce que c'est quand même une sorte de pilier de la demande qui est faite par les citoyens gouvernants. Je pense que la crise sanitaire a rajouté une couche, c'est-à-dire que c'est pas simple, la sécurité n'est pas seulement entendue au plan de l'absence de délinquance, par exemple, de risque à sortir dans la rue, mais aussi la sécurité sanitaire, tout simplement. Et du coup, je trouve ça très intéressant par rapport au thème de la santé. Ce que disait Frédéric Michaud, c'est un peu étonnant que le thème de la santé ne soit pas en dessous. Et à l'écouter, je me disais peut-être que c'est une sorte d'hyper-santé, la demande de sécurité, à certains égards. Parce que quand on regarde l'histoire du mot, c'est passionnant parce que vous avez dans sécurité la cure, cura, hein. En latin, la cure, ça veut dire le soin. On appelle ça le care aujourd'hui. Donc c'est une sorte de premier soin absolument fondamental qui porte sur le corps. Et je crois que notre société, elle produit énormément de discours aujourd'hui autour du corps ou à partir du corps qui sont difficiles à entendre par la langue politique classique qui n'a pas ces catégories en tête. Parce que ce sont des catégories plus anthropologiques, plus liées à l'homme tel qu'il est, un peu nu. Et du coup, je crois que c'est ça qui... Enfin, c'est peut-être une des raisons, disons, d'ordre symbolique, plus que sociologique, qui ferait qu'aujourd'hui, dans le cadre actuel de quand même ce monde extrêmement instable, du fait de plusieurs dimensions d'instabilité, hein, la demande d'être rassuré sur le plan de sa propre personne, de son propre corps, à mon avis, ne va faire qu'augmenter. Voilà. Mmh. Et pour finir là-dessus, en latin, ce secura, cette sécurité du corps, eh ben, elle se traduit, enfin, elle voulait dire absence de soucis. Autrement dit, prenez soin de moi pour que moi, je sois libre dans ma tête de faire tout ce que je veux.
Frédéric Michaud, est-ce que ce thème de la sécurité correspond, dans l'étude que vous avez réalisée, à une famille politique particulière dans l'opinion, pour le dire très rapidement, plutôt la droite et l'extrême droite, ou est-ce que toutes les familles politiques, tous les courants de pensée, tous ceux, quand vous leur demandez comment ils se définissent politiquement, est-ce que tous ceux-là, là, ils sont préoccupés par cette question de la sécurité ?
Alors quand on regarde dans les études d'opinion la question de la sécurité, quelle qu'elle soit d'ailleurs, mais précisément de la sécurité des biens et des personnes, on observe traditionnellement plusieurs clivages. Par exemple, on sait que les femmes sont plus sensibles habituellement aux questions de sécurité que les hommes. Là, c'est pas le cas. On sait également que plus on est âgé, plus on est sensible à la question de la sécurité. C'est le cas dans notre enquête, hein. Chez les plus de 65 ans, c'est une question qui est la première question et qui est majoritaire. Mais chez les 18-24 ans, c'est aussi le premier enjeu. Donc on a une tendance au nivellement générationnel de la question de la sécurité. Les CSP+, c'est-à-dire les cadres, professions intermédiaires, sont un petit peu moins sensibles que les catégories populaires, les ouvriers, les employés à la question de la sécurité, mais ils le sont tout de même, et puis vous avez raison. Le vrai clivage est un clivage d'ordre politique. Les sympathisants du Rassemblement national citent cet enjeu à hauteur de 73%. Je rappelle que c'est 47% pour l'ensemble des Français. Chez les sympathisants des Républicains, c'est un tout petit peu en dessous, 70%. Mais chez les sympathisants de La République En Marche, donc de la majorité présidentielle, c'est le troisième enjeu qui est cité seulement à 43%. Donc vous voyez, il y a déjà 30 points d'écart entre le centre et l'extrême droite. Et puis à gauche, c'est un enjeu, je dirais, de second plan. Seulement 33% chez les sympathisants socialistes, 20% chez les sympathisants de la France insoumise. Et puis chez les sympathisants d'Europe Écologie Les Verts, c'est évidemment un enjeu qui est secondaire par rapport à celui du cadre de vie et de l'environnement.
Jacques de Maillard. La présence d'une partie de la gauche, il y a quelques jours, à la manifestation des syndicats de police devant l'Assemblée nationale, ça illustre quand même une préoccupation, enfin un intérêt pour cette préoccupation qui est exprimée assez clairement par les enquêtes d'opinion.
Oui, effectivement, on a des candidats aux élections présidentielles, enfin, qui commence à se positionner et qui cherche à éviter les risques de pertes politiques trop importantes en se coupant d'une partie de l'opinion. Si on met de côté la prise de position du leader de la France insoumise, donc ça joue dans un contexte où les attaques successives contre les policiers ont conduit à une vague d'opinion qui vient en soutien de ces policiers et dont ont su jouer habilement, il faut le dire, les syndicats policiers avec cette mobilisation qui jouait sur deux registres très différents en fait. Un registre de soutien aux policiers, policiers victimes, donc le recueillement, l'expression de la solidarité, et en même temps un registre éminemment politique qui était le registre de changer la loi, mettez des peines planchers pour les homicides vis-à-vis de policiers. Et donc un certain nombre d'acteurs politiques se sont retrouvés coincés dans cette double demande, c'est-à-dire adhérer au soutien aux policiers, tout en n'adhérant pas aux demandes de modifications législatives, très difficiles à mettre en place, on le sait, demandées par les syndicats de policiers. Donc on est dans un contexte où effectivement l'effet divers crée un effet de focalisation, de cadrage médiatique très favorable au soutien aux forces de l'ordre.
Mariette Darrigrand, pardon, à gauche, je vais revenir sur ce que disait Frédéric Michaud, hein, c'est un thème qui est moins prégnant, mais au moins sur la façon d'en parler entre les différents partis, c'est un thème qui divise toujours en fait, et c'est pas nouveau.
C'est un thème, oui, qui reste structurant. Alors, ce que je peux observer de là où je suis, c'est que il y a aujourd'hui à droite et à l'extrême droite un thème qui pourrait être une sorte d'image qui est en train de monter et qui est le fait que toutes les digues ont éclaté dans notre pays et qu'on est en situation de type chaotique. Et du coup, la question de la sécurité par image, hein, par métaphore, elle se reconstruit dans les discours. Comme la nécessité de digues, la nécessité de limites, la nécessité de frontières. Donc elle se met à rimer avec un récit de l'autorité. Sécurité et autorité vont aller de pair. Et du coup, ce qui est réclamé contre cet état de flottement très angoissant, hein, si on prend la métaphore jusqu'au bout, eh bien, c'est l'idée qu'il faut absolument une forme de, c'est souvent le cas, hein, mais ça va être encore plus prégnant cette fois, de rigidité, de reconstruction solide, voilà, à l'intérieur duquel on va pouvoir vivre en paix. Ce serait ça, disons, la petite mythologie qui serait à l'œuvre. Et de ce point de vue-là, pour moi, il y a un mot qui fait problème et qui est le mot de territoire, qui s'est diffusé énormément ces dernières années, je dirais sur un plan un peu anecdotique, un peu comme le terroir, et qui en fait contient quelque chose de beaucoup plus dur et beaucoup plus presque guerrier, qui va être structurant. C'est-à-dire, voilà, hein, ceux qui défendent le territoire et les autres.
Oui. Frédéric Michaud, le centre, et vous avez peut-être me détrompé, mais je vais le dire très rapidement, le résumer très rapidement, le centre de gravité de l'opinion, il s'est apparemment déplacé vers la droite ces dernières années. Vous me détromperez peut-être, mais est-ce qu'en prenant ce tournant sécuritaire depuis quelques semaines et même quelques mois, Emmanuel Macron suit ce mouvement ou il le précède ?
Ah, j'ai le sentiment qu'il cherche plutôt à le suivre et à le capter pour maintenir sa position. D'abord la qualification pour le second tour et puis ensuite une éventuelle réélection face à Marine Le Pen. Mais ce qui vient d'être dit est particulièrement juste. Hein. On a le sentiment qu'on n'est pas seulement dans une seule crise, mais dans une conjonction de crises qui déstabilise l'intégralité de la société. Et cette question de la sécurité, elle doit bien s'apprécier, comme l'ont dit les autres interlocuteurs, en regard avec la question de la justice. Et les enquêtes d'opinion nous montrent que les perceptions qu'ont les Français de la justice, au-delà des faits divers qui évidemment alimentent ces différentes perceptions, et il y en a eu plusieurs récemment, mais ces perceptions, elles se concentrent sur l'idée d'une justice de plus en plus laxiste. En tout cas, des
peines... En tout cas, inefficace.
inefficaces, lentes, opaques, enfin ça ce sont les critiques classiques adressées à la justice, mais avec des peines qui ne sont pas, des peines prononcées qui ne sont pas assez sévères, quel que soit le crime, hein, que ce soit des crimes sexuels, des récidives, le trafic de drogue, la délinquance, etc. L'idée d'un manque de sévérité et qui fait couple avec cet appel à une plus grande fermeté, à une plus grande intransigeance, bref, à ce que l'autorité s'exerce. Il y a un point qui est emblématique, et vous allez voir à quel point, c'est la part des Français qui sont favorables au rétablissement de la peine de mort. Aujourd'hui, c'est 46% de la population qui souhaite le rétablissement de la peine de mort qui a été abolie il y a 40 ans. Ça dit bien cette attente très forte de l'opinion publique d'une plus grande fermeté, aussi d'une politique punitive d'une certaine manière, d'une politique judiciaire punitive d'une certaine manière. Qui est vraiment partagé dans l'ensemble de l'opinion à l'heure actuelle.
Jacques de Maillard, je continue, j'insiste un petit peu sur la lecture politique de ce sujet. Est-ce qu'il y a une dimension où les forces politiques moins attachées à la sécurité se disent « on ne veut pas », ou qui ont la réputation d'être moins attachées en tout cas à la sécurité, se disent « on ne veut pas être accusé de naïveté » comme c'est arrivé à Lionel Jospin en 2002, qui était une campagne très marquée notamment à la fin par les thèmes de la sécurité ou de l'insécurité?
Oui, bien évidemment. Classiquement, les partis de gauche du gouvernement se sont saisis de la question de la sécurité depuis Kerjox en 84 comme ministre de l'Intérieur. Enfin, on a des ministres de l'Intérieur de gauche qui se sont saisis de cette question de façon vigoureuse depuis cette époque-là. Moi, j'aimerais revenir, mais effectivement, la gauche est toujours soupçonnée d'être pas suffisamment en faveur de la sécurité, ce qui peut conduire un certain nombre d'acteurs politiques à se montrer particulièrement prudents sur la question. Mais j'aimerais revenir quand même sur un certain nombre des contradictions de l'opinion sur ces questions. Il était question des 18-24 ans qui étaient, sur la question de la sécurité, visiblement très en hausse et rejoignaient d'autres générations. Il y a eu un sondage du Cevipof récemment qui montre que chez les 18-24 ans, c'est là qu'on a le plus d'opinions défavorables aux forces de police et critiques vis-à-vis de l'utilisation de la force par les forces de police. Donc pour souligner le fait qu'on a aussi des mouvements qui sont des mouvements contradictoires. Deuxième point, le cadrage peut s'opérer de façon variée en fonction des contextes. Il y a 6 mois, on est dans le contexte de l'affaire Zecler. Et dans le contexte de l'affaire Michel Zecler, ce policier qui a été, cet homme qui a été tabassé par des policiers, la question de l'autorité se posait dans des termes complètement différents. Donc ce qu'il ne faut jamais négliger sur ces questions-là, c'est comme c'est très dicté par les faits divers avec le caractère émotionnel qu'il convoie, on peut avoir des cadrages qui sont variables en fonction des contextes. Dernier point sur la justice. Les Français connaissent très mal la justice et effectivement, toutes les enquêtes d'opinion montrent de façon régulière à la fois la méconnaissance et la confiance beaucoup plus faible dans la justice que dans la police. Ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est deux choses. La première, c'est qu'on a une justice qui sanctionne de plus en plus. Quand on regarde l'évolution de la population incarcérée depuis le début des années 2000, elle a évolué en de façon complètement contraire à l'évolution de la délinquance. C'est-à-dire que la délinquance est stabilisée, la population incarcérée a augmenté. Donc on est devant une justice qui fonctionne. Le deuxième point, c'est que...
Vous voulez dire que statistiquement, la justice, eh bien, elle sanctionne, elle emprisonne, elle fait son travail, mais la perception est différente.
Tout à fait. Et quand on regarde là sur, c'était particulièrement frappant sur la question des homicides de policiers, il y a eu un rapport qui a été produit il y a quelques années et qui montre bien à quel point la justice est sévère sur les violences contre les personnes dépositaires de l'autorité publique, beaucoup plus sévère que pour les personnes lambda, que les peines d'emprisonnement avec sursis ou ferme sont fréquente, sinon systématique, même quand il n'y a pas d'interruption temporaire du travail. Donc, dire que la justice ne sanctionne pas est tout simplement faux. Le deuxième point que j'aimerais souligner, je termine dessus, mais c'est un point qui, à mon avis, est intéressant, c'est que beaucoup d'enquêtes ont montré que en France comme ailleurs, quand on pose la question en général, les gens disent « la justice ne sanctionne pas suffisamment ». Quand on pose un cas précis, un tel a commis tel acte, quelle peine de prison vous lui donneriez ou quelle sanction vous choisiriez? En fait, souvent, les gens, sur des cas concrets, jugent à peu près comme les magistrats, voire un petit peu moins sévèrement que les magistrats. Donc tout dépend de la façon dont on pose la question. Et de ce point de vue-là, les opinions sont souvent beaucoup plus sévères que la compréhension, enfin que le mode de fonctionnement concret de la justice.
Mariette Darigrand, j'aimerais vous entendre sur cette affaire des faits et de la perception des faits. En 2002, on en parlait, Lionel Jospin, les socialistes, parlaient de sentiment d'insécurité plutôt que d'insécurité réelle. Là, on vient sur la justice avec Jacques de Maillard d'avoir une nouvelle illustration. Est-ce que cette discussion sur la réalité de l'augmentation de la violence, elle est perceptible aujourd'hui dans le débat public, certes parce qu'on en parle entre nous, mais quand même, est-ce que cette question continue à se poser?
Alors là, les hommes politiques devraient lire Gaston Bachelard, un spécialiste de l'imagination. Et il avait cette formule, il disait « pour une seule goutte suffit ». C'est-à-dire, vous avez, je ne sais pas, une goutte de poison dans votre assiette, une mouche qui tombe dans votre assiette, bah vous ne mangez plus l'assiette entière. C'est la partie pour le tout. C'est notre imagination qui est comme ça. Donc, de toute façon, dire sentiment de sécurité, ou c'est ridicule, parce que de toute façon, ça n'accroche pas avec le mécanisme de l'imagination humaine. C'est pour ça que le fait divers est si prégnant dans les débats. Il y en a toujours, il y a toujours une instrumentalisation du fait divers pour faire comprendre des situations globales. Donc ça, on n'échappera pas, je crois, à ça. Et puis, par ailleurs, le fait divers dit quelque chose quand même d'une société. Donc, il me semble qu'on est en train, aujourd'hui, sur ces questions-là, d'être très idéologique. C'est par là qu'elle revient, l'idéologie, qui n'est pas au bon endroit, c'est-à-dire des pensées politiques articulées qui pourraient donner ou proposer des voies différentes. Comme on n'en est pas là, eh bien, on va avoir probablement une bataille des mots. Hein. On aura peut-être le sécuritaire contre le libertaire, ou le sanctuaire aussi, je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire, ce qui me fait peur, c'est dans cette société d'archipélisation, comme dit Jean Fourquet, il n'a pas tort là-dessus, eh ben, on aura des îles fermées les unes aux autres. Et ça, c'est pire que la sécuritaire, c'est le sanctuaire. Et du coup, je trouve que c'est là que des tas de gens peuvent se retrouver à leur façon. Vous pouvez vous sanctuariser dans l'abstention. Dire « moi, je m'en fiche, je vis dans un écolieu à la campagne et je ne participe pas à la vie politique ». Mais ce faisant, malgré vous, vous aurez un rôle dans le scrutin. Donc on va voir des mécanismes comme ça qui montrent que l'idéologie, comme d'habitude, se cache dans les détails. Et il va falloir être extrêmement sensible au petit, à la partie qui vaut pour le tout.
Frédéric Michaud, est-ce que c'est possible aujourd'hui, pour peser dans l'opinion, d'avoir une position nuancée ou factuelle en disant « non mais, comme on le disait, la justice, elle sanctionne ». Est-ce que c'est audible, ça ?
Alors, c'est tout le problème des campagnes électorales. Le problème des campagnes électorales, c'est un combat, une opposition entre différentes visions de la société. Et on sait très bien, la sociologie l'a montré il y a une centaine d'années, que des perceptions fausses peuvent avoir des conséquences vraies. La politique, c'est d'abord agir sur les perceptions, d'abord manipuler des symboles d'une certaine manière, faire de la communication, utiliser des mots pour transformer la réalité à travers les comportements. Et le principe d'une campagne électorale, c'est justement de confronter différentes visions de la société, différents projets de société.
C'est-à-dire que faire, c'est dire. C'est ce que vous êtes en train de nous dire quasiment.
Oui, et dire aussi que même si ces perceptions sont fausses, elles doivent être prises en charge par les politiques. Alors ça peut passer par redonner de l'information pour rétablir des perceptions qui soient en adéquation avec la réalité, mais ce qui me semble une vraie erreur politique, ce serait de nier ces perceptions, de les rejeter au motif qu'elles ne sont pas totalement exactes.
Oui. Jacques de Maillard, j'aimerais revenir sur un point que vous avez abordé rapidement tout à l'heure. Est-ce que les syndicats de policiers se sont suffisamment bien organisés pour réussir à imposer ces thèmes dans le débat, dans l'opinion?
là, on peut faire le constat que dans un contexte où on a eu un certain nombre de faits dramatiques, ils ont su se saisir de la question pour imposer le cadrage médiatique du policier victime. Alors, il faut rappeler que si on regarde les homicides de policiers, ça reste un phénomène extrêmement grave, choquant, mais rare. C'est-à-dire que vous avez 5 à 15 morts de policiers par an, et la plupart d'entre eux, ça varie en fonction des années, mais beaucoup d'entre eux de façon accidentelle. On peut considérer que les syndicats policiers ont réussi à imposer pour partie leur thématique. Je ne sais pas s'ils parviendront à imposer la réforme, parce que là, on est tout à fait dans le décalage entre la politique comme émotion et la politique comme réforme. Il était question effectivement de cette dualité, c'est-à-dire ce qu'on dit qu'on peut faire et ce qu'on peut faire. Là, typiquement, ce qui est proposé par les syndicats policiers semble juridiquement très difficile à réaliser, mais en tous les cas, ils ont réussi à...
Anticonstitutionnel, on va le dire carrément. Question.
Oui, oui, c'est vraiment... là, on est dans un décalage énorme entre ce qui fait la compétition politique et ce qui fait les politiques publiques, c'est-à-dire ce qu'on peut réellement faire. Mais dans cette dimension émotionnelle et symbolique, ils ont réussi à imposer le fait que on peut difficilement faire sans eux. En sachant que les syndicats de policiers sont pas tous sur la même ligne, on a eu des paroles, si on a écouté le rassemblement de jeudi dernier, on a des paroles quand même assez différentes entre l'un qui dit le problème de la police, c'est la justice, et l'autre qui dit attention, n'attaquons pas la justice qui est exsangue. Vous voyez, on a une variété de positions. Le problème, effectivement, c'était dit précédemment, c'est que souvent, on entend celui qui parle le plus fort. Et celui qui parle le plus fort, c'est pas celui qui parle le plus juste. C'est celui qui peut effectivement tordre la réalité pour créer du buzz, créer de la polarisation. Donc, dans ces moments de campagne, effectivement, alors moi je le vois du point de vue du spécialiste des questions de sécurité, je vois le décalage entre la façon dont certains syndicats de policiers décrivent le réel et le réel tel qu'il existe. Et là, je pense qu'il y a un rôle effectivement central qui est d'augmenter la qualité du débat public autour de ces questions de sécurité pour ne pas se laisser emporter par les mots. Mots qui ne décrivent plus le réel, et par les faits divers qui sont en décalage, ils sont choquants, mais ils sont en décalage par rapport à la réalité.
Mariette Darigrand, quand il y a un discours majoritaire comme ça qui s'impose, c'est difficile d'avoir un contre-discours ?
Oui, c'est très difficile, mais c'est très intéressant et c'est le prix de la démocratie. Si on ne fait pas ce travail-là, et les médias sont totalement impliqués là-dedans, si on ne fait pas ce que j'appellerais la quatrième fonction du langage, parce qu'on peut raconter, on peut dire son logo, sa vérité personnelle, et on peut décrire, mais il faut une quatrième fonction très forte du récit, qui est la déconstruction même. Ce qu'on est en train de faire là ensemble, c'est tout à fait intéressant, parce qu'il faut faire jouer les trois catégories du réel, du symbolique et de l'imaginaire. On se sortira pas sinon.
Frédéric Michaud, en quelques mots, il y a aussi des personnalités politiques qui font avancer ces thèmes dans le discours et dans le débat. Je pense évidemment à Gérald Darmanin, par sa fonction de ministre de l'Intérieur, de par son héritage sarkozyste. Il incarne ça, il impose aussi ce discours.
Oui, mais d'une certaine manière, c'est sa fonction justement en tant que ministre de l'Intérieur de prendre en charge toutes ces questions. Mais on voit bien quand même comment les faits divers qui sont effectivement plus que choquants.
Enfin, ce qui, oui, absolument. Oui.
Voilà, et avec une gradation dans la violence et dans les atrocités renforce. Justement ces perceptions qui peuvent être en décalage par rapport à la réalité. Et là, on retrouve ce qui a été dit, hein, ce conflit entre l'émotion et la raison qui est particulièrement difficile à mener de la part des gouvernants.
Merci Frédéric Michaud,
merci
Jacques de Maillard et merci Mariette Darigrand. Merci à vous trois d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du Débat du Jour, Arnold Assoa et Florence Ponce à la coordination, Charles Barré à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Jean-Philippe Turi. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur les réseaux sociaux, sur nos applications mobiles ou sur notre site internet. On se retrouve pour un nouveau débat jeudi, même heure, même endroit. Demain, ce sera une émission spéciale des médias francophones publics sur les mobilités douces et notamment le vélo. Dans quelques instants, l'info revient sur RFI. Bonjour chez vous.